Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si courir, ce n'était pas seulement mettre un pied devant l'autre, c'est ce que j'ai découvert ces deux dernières années et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, de mode de vie sportif, que nous soyons des coureurs de toujours ou des coureurs de ces derniers moments, un petit peu comme moi, le hamster qui sort de sa roue, qui s'évade, qui découvre en quelques années ce que c'est de recourir, tout simplement, après l'avoir oublié pendant près de 20 ans. On a tous notre parcours, on a tous notre histoire, on a tous notre manière de courir, mais on découvre tous des choses sur la course à pied, et vous savez que je suis là avec les conseils, avec les invités, avec ce que j'ai découvert aussi moi par de mon côté, les recherches que je peux faire. Je suis là aussi pour vous aider, pour vous donner un petit peu, mais ce que moi j'ai... comment je vois les choses. Et en fait, il faut se rappeler, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, parce que on pourrait dire que c'est une sorte de bilan pour les 2 ans du podcast. Alors... j'ai loupé le jour des 2 ans du podcast, parce que c'était le 15 août en fait. Je me suis rendu compte que j'avais ouvert le podcast le 15 août 2018, voilà, il y a 2 ans. L'histoire, c'est que je me lançais dans la préparation de mon premier marathon. C'était la documentation de mon projet de devenir marathonien. Voilà, c'était donc un nom logique, kilomètre 42, comme le nombre de kilomètres à parcourir le jour de mon anniversaire, ou à quelque chose près le jour de mon anniversaire. Et donc j'avais commencé à lancer tout simplement ce podcast en disant bah voici comment je prépare, voici ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors bien sûr, depuis, le podcast a pris de l'ampleur grâce à vous, grâce à vos écoutes, grâce à vos messages, grâce à vos encouragements et tout ce qui se passe autour. Mais en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler de 5 choses qui me semblent un peu contre-intuitives, que j'ai appris en voulant progresser dans la course à pied. Et je n'aurais peut-être pas... j'y avais pas pensé avant de courir plusieurs fois par semaine. C'est un petit peu, finalement, on pourrait dire, les choses que j'ai appris dans mon parcours de coureur, et que au départ j'avais pas trop misé dessus parce que ça me semblait pas important, ou même tout simplement pas exister quand j'ai commencé à courir. Et je voudrais vous faire un petit tour là-dessus en guise un petit peu de bilan de ces 2 premières années du podcast. Mais avant tout ça, je voudrais d'abord vous remercier. Alors j'ai beaucoup de merci à vous donner. D'abord pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. Comme je le disais, en 2 ans, le podcast est passé de podcast personnel dans son coin, où finalement il n'y avait pas grand monde qui l'écoutait, puisqu'il faut du temps pour que ce soit découvert. Et c'est grâce à vous qu'il a été découvert, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos encouragements, c'est grâce à vos partages sur Twitter, c'est grâce à vos partages sur Instagram. Merci pour vos dédicaces, notamment dans les stories Instagram, dans vos messages sur Twitter, vos photos que vous pouvez partager. Vous rappelez, vous connaissez le principe, vous pouvez me dire, tiens, j'écoute le podcast à tel endroit, ou ça peut être dans votre voiture, ça peut être en courant, ça peut être au lever du soleil, au coucher du soleil, ça peut être dans votre salon aussi sans aucun problème, mais en tout cas, me dire, tiens, j'ai écouté ça, tiens, je vous encourage à écouter ça, et puis vous pouvez m'envoyer aussi vos questions, vous pouvez le faire tout ça par Instagram par exemple, @BertrandSoulier, mon compte personnel, vous pouvez le faire aussi sur Twitter, @BertrandSoulier, vous pouvez le dire sur ma page Facebook, @BertrandSoulier, partout en fait, vous cherchez Bertrand Soulier, vous allez me trouver, car j'ai décidé, en fait, tous mes contenus, je suis toujours sur Bertrand Soulier, ne cherchez pas par exemple de compte Instagram Kilomètre 42, il n'existe pas. En revanche, il y a un compte Instagram du Hamsters Running Club qui existe, pour l'instant qui est vide, mais petit à petit qui va se remplir, mais ça nous en parlerons un autre jour dans un autre épisode. Donc je voulais vous remercier d'abord pour votre soutien, pour vos encouragements et pour tout ça. Je voudrais remercier aussi ceux qui sont de soutien financier sur Patreon. Je vous rappelle que le principe, c'est que vous pouvez donner de l'argent, une petite somme à partir de 1 euro par épisode du podcast. Vous pouvez en donner plus si vous voulez, vous pouvez limiter la somme que vous avez donnée par mois, mais en tout cas, ça vous permet de bénéficier des épisodes sans la pub, d'écouter, moi, tous les lundis, je diffuse aussi mon journal d'entraînement dans un flux de podcast privé, donc ça vous fait un 2e épisode dans la semaine. Et en fait, ça me permet, moi, de créer mon nouveau métier, de poursuivre ma transition. C'est ce que je disais, le hamster, quand il s'est évadé, son but maintenant, c'est... j'ai jamais rêvé d'être assis dans un bureau, de travailler dans un bureau, bureau toute la journée. Quand j'étais gamin, comme vous peut-être, je rêvais de faire du sport, de courir, d'être plus libre, on pourrait dire, par certains aspects. Et en fait, c'est ça que je vise, hein. Et en fait, vos soutiens sur Patreon me permettent ça, et vous me permettent aussi de vous proposer plus de contenu, d'envisager de nouveaux projets, de financer certaines parties du podcast, par exemple, qui pourraient être des déplacements, qui peut être du matériel, des logiciels, des choses comme ça, pour progresser et vous proposer aussi plus de choses. Et puis, je vous remercie aussi pour vos commentaires sur Apple Podcast. Notamment, je vais remercier aujourd'hui John, qui fait partie notamment des soutiens de mes différents projets et qui me dit « Merci Bertrand pour ces heures passées en ta compagnie sur les pistes à compter les kilomètres. Un podcast vraiment sans prise de tête qui vous fera aimer la course à pied et le sport en général. » Merci beaucoup John pour ce commentaire qui me fait vraiment plaisir. Et en fait, si je le donne aujourd'hui, je crois que je l'avais déjà donné, mais c'est vraiment ce qui symbolise un petit peu ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Finalement, c'est aimer, comment on peut aimer, progresser dans la course à pied sans trop se prendre la tête, sans non plus avoir une démarche ou en disant il faut absolument faire telle ou telle chose. Parce que ce que j'ai découvert dans ces dernières années, c'est que finalement, on est tous différents, on court tous différemment et qu'on peut lire de nombreux conseils. Il y a de nombreux livres, des magazines, des chaînes YouTube, des podcasts sur le sport, sur la course. Vous pouvez lire donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, des avis de plein de sportifs, des gens qui ont fait 10 marathons, 20 marathons, qui ont fait des ultras, des gens qui courent vite, des gens qui courent doucement, peuvent avoir énormément de conseils. Certains même vont apparaître comme étant contraires, certains vont vous paraître un petit peu surprenants, certains vont être, vous dites, ah, oui mais alors ça je prends, ça je prends pas, et c'est vraiment le truc qui est important, c'est que il y a un moment donné, il faut se faire aussi sa propre philosophie, de se dire, bah tiens, voilà ce qui marche pour moi, voici ce qui est efficace pour moi, voici ce qui a bien marché pour moi, voici ce qui marche un petit peu moins, voici ce que je pourrais adapter, voici ce que je pourrais prendre chez certains, et puis il y a des fois, il y a des choses qu'on voit chez certaines personnes qu'on ne peut tout simplement pas adapter parce qu'ils ont leur passé, parce qu'ils ont leur niveau à eux, parce qu'ils ont leur temps qu'ils ont, etc. Et donc, dans cet épisode, je voudrais vous proposer un bilan de ce que j'ai constaté moi ces deux dernières années, en passant de coureur du dimanche à coureur du quotidien, ou presque, même ce qui est des mêmes coureurs du quotidien sur le mois de juillet, et puis sur le mois d'août, franchement, il y a des semaines où j'ai couru 4 à 5 fois par semaine, mais où j'ai nagé, et donc finalement, où j'ai eu 6 séances par semaine à peu près, vous voyez, de sport, 6 à 7 séances, voire même un peu plus des fois, il y a des semaines à 8 séances, entre la natation et la course, vous savez que là, il y a le swim run qui arrive dans quelques jours maintenant, donc on s'est préparé pour ça avec mon coéquipier, et donc, il y a, vous voyez, j'ai fait, dans ces 2 ans, je me suis rendu compte de plein de petites choses, de plein de petites leçons, en fait, que je retiens de ce parcours, et c'est ce que je voudrais vous partager dans cet épisode. Le premier conseil contre-intuitif que je me serais peut-être jamais donné quand j'ai commencé à courir, c'était le constat de courir lentement pour courir vite, et courir plus lentement pour courir plus vite et courir plus longtemps. Et c'est la fameuse endurance mentale dont j'ai parlé encore récemment et j'en parle très souvent, qui peut surprendre parce que j'ai eu un commentaire sur ce travail il y a pas très longtemps de quelqu'un qui était étonné que j'ai fait par exemple plus de 2 heures en endurance mentale sur un parcours trail, etc. Vous pouvez être étonné aussi quand vous voyez par exemple j'ai fait un épisode en courant pendant 1 heure en endurance mentale pure, et à une époque j'étais incapable de le faire bien entendu, et même de savoir ce qu'était de l'endurance mentale pour moi ça n'existait pas, ce concept-là n'existait pas. Quand j'ai couru les premières fois, je suis parti courir à des vitesses, et puis j'avais vu des histoires de fractionnés de 30-30, etc. Mais j'avais rarement vu cette notion de courir plus doucement, de courir plus lentement, d'accepter de ne pas faire monter le cardio, d'accepter de courir déjà à par exemple à 9 km/h ou des choses comme ça, parfois encore plus lentement que ça, pour arriver tout simplement à progresser. Et c'est ma plus grande découverte personnelle, je dois le dire, vraiment, en tout cas, ça fait vraiment partie le déclencheur. Alors l'un des déclencheurs pour moi était la lecture de Rich Roll, la biographie de Rich Roll, où c'est un conseil qui était donné de son coach, Rich Roll, pour l'histoire, je le répète, ça fait partie un petit peu des personnes, vous voyez, que des mentors, non pas que je peux contacter. Alors, pour l'anecdote, je l'ai contacté un jour pour lui demander un conseil, et il a jamais répondu, mais parce qu'il a des, je pense, des milliers et des milliers de messages, mais Rich Roll, il est passé de athlète qui aurait qui avait un très très bon niveau en natation, hein, universitaire, etc., et qui peut-être aurait pu avoir une carrière de nageur, qui est tombé dans l'alcool, la drogue, etc., et qui un jour s'est rendu compte que bah il allait mourir jeune s'il continuait comme ça, et qui a totalement changé de vie, et qui s'est lancé notamment dans le triathlon, dans l'Ironman et dans l'ultra triathlon, dans des trucs qui sont plus forts que l'Ironman, par exemple faire 7 Ironman en 7 jours ou 8 jours autour des îles d'Hawaï, etc., enfin des choses comme ça. Et il raconte très bien dans son livre, dans sa biographie, que en fait, il y a un moment donné, il s'est rendu compte qu'en courant comme il courait, en pédalant comme il courait, ça marchait pas. Et le conseil que lui a donné son coach, c'était de dire, tu cours dans ce qu'ils appellent la zone 2 de son cardio, c'est-à-dire très lentement, et que au début, il a trouvé ça totalement contre-intuitif aussi, hein, un peu, c'est pour ça que je dis c'est vraiment contre-intuitif, mais que au final il a découvert que c'est ce qui permettait, hein, de progresser. Et c'est vrai que notre corps est fait comme ça, hein, que notre corps a besoin de développer. Alors il y a le développement des mitochondries qui sont nos petites centrales nucléaires à l'intérieur de nos cellules par exemple, qui se développent aussi à certaines allures. C'est ce que je disais aussi dans une vidéo. Il faut se rappeler que l'humain, l'homme, la femme telle que nous sommes pas faits pour courir vite longtemps, ou en tout cas on n'a pas été conçu tant que ça pour le faire. On a été conçu pour courir et marcher pendant très longtemps à des vitesses basses. On a été conçu pour courir très vite quand il y a besoin de fuir, mais que les vitesses intermédiaires, on n'est pas vraiment fait pour ça, qu'on peut s'épuiser très vite, etc. Et notamment, c'est la grande difficulté du marathon. Faire 42 km, c'est pas quelque chose qui est, soyons honnêtes, hein, ça peut vous paraître quelque chose qui est insurmontable, mais faire 42 km, si vous devez faire 42 km en marchant, par exemple, bon, bien sûr, vous allez mettre plusieurs heures pour le faire, mais c'est pas fondamentalement une distance qui est impossible à faire, du moment que vous allez marcher régulièrement, etc. C'est pas impossible à faire. Courir 42 km, c'est quelque chose qui est à la portée de gens qui s'entraînent normalement. Mais la difficulté du marathon, c'est quand on se met un temps. Et la difficulté dans le marathon, c'est pas de faire forcément les 42 km, c'est de faire les 42 km dans l'allure qu'on a prévue, de maintenir l'allure qu'on a prévue, et d'arriver à le faire, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le corps, il est en capacité ou pas de le faire. C'est ça la grande différence, hein, finalement, entre quelqu'un qui va courir, qui va marcher comme ça 40 km, pour le plaisir, qui regarde pas le temps, et quelqu'un qui va courir 42 km en se disant je vais le faire en 3 heures, je vais le faire en 4 heures, c'est de se mettre ce critère de temps comme ça là, cette difficulté, qui engendre des problèmes sur le corps, comment le corps va fonctionner, comment il va se fatiguer, comment il va puiser dans les ressources, etc. Et c'est ça l'une des grandes difficultés, hein, que l'on a, mais c'est l'endurance mentale aussi qui permet de le faire. Et comme le disait Johan Stuck, hein, dans l'épisode où il était invité, nous courons souvent à des allures trop élevées qui nous épuisent, nous fatiguent. Alors que, y a des moments où on doit trouver, hein, comment arriver à faire du volume. Et en fait, il y a de nombreux paliers de vitesse, hein, et courir doucement est ce qui m'a permis de progresser le plus en endurance, mais aussi en vitesse, hein, parce que c'est ce qui m'a permis de courir plus souvent, c'est ce qui m'a permis de courir plus souvent et sans fatigue, sans blessure, hein, mis à part ce petit point au mollet après le confinement, mais qui était en fait lié finalement au fait que j'ai voulu accélérer, j'ai voulu aller un peu plus vite, j'ai voulu tester un petit peu, une petite accélération, des choses comme ça, alors que mon corps n'était pas encore préparé, après 2 mois de coupure, il n'était pas repréparé au fait de pouvoir courir à l'allure à laquelle je pouvais courir avant. Parce que oui, il y a des moments, tout simplement, on est en forme, certains états de forme, on a la fatigue, on a les coupures, les choses comme ça, qui font que notre corps réagit pas de la même manière. Mais attention, je voudrais quand même dire un truc sur l'endurance mentale. Et j'avais dit sur l'histoire des sorties longues, c'est que à elle seule, elle ne suffit pas. C'est pas parce que vous allez faire que de l'endurance mentale que vous allez vraiment progresser en vitesse. En fait, c'est le socle qui permet de progresser. C'est ce qui permet de préparer le corps à courir plus longtemps, mais ce qui permet aussi au corps de courir plus vite, de tenir les exercices qui vont permettre ensuite de développer la vitesse. Et ces exercices pour développer la vitesse, ce sont des exercices où on court vite. C'est la fameuse exercice de VMA, c'est-à-dire les fameux 30-30, les accélérations, courir des 200, des 300, des 400 mètres à pleine vitesse. Vraiment faire même des sprints, des choses comme ça. C'est si on veut arriver à courir plus vite, il y a un moment donné, il faut travailler la vitesse. Alors pour arriver à bien travailler la vitesse, il faut arriver à tenir à courir en aisance respiratoire, en fameuse endurance mentale, pour arriver à faire du kilométrage, pour arriver à faire un peu plus de volume. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment aller plus vite, il va falloir travailler aussi avec des exercices de vitesse. Et ça fait aussi partie de l'entraînement tel que l'on voit plus classiquement. C'est pour ça que quand vous avez tous ces plans marathon, plan 5 km, plan 10 km, ils alternent toujours les différentes vitesses, les différents paliers. Il y a des moments où on vous fait faire un petit footing, un petit jogging, et c'est important de le faire en format footing, endurance mentale. Mais il y a des moments où il faut aller aussi accepter que pour courir plus vite, il va vraiment falloir courir plus vite, et même courir beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle vous visez en course, tout simplement parce que il faut passer le palier, montrer au corps, expliquer au corps qu'on est capable de le faire, et lui prouver, j'ai envie de dire aussi un petit peu, parce que instinctivement comme ça, notre cerveau est plutôt là pour nous défendre de choses qu'il considère un petit peu comme inconsidéré, je sais pas trop quel mot donner, mais dire, attends, t'es un peu fou, mon gars, de vouloir aller dans ces vitesses-là, moi j'ai pas trop envie d'y aller. Il faut lui montrer qu'on est capable de le faire, et à partir de là, il va créer aussi les adaptations qui permettront de courir plus vite. Alors, ça veut pas dire qu'on va pouvoir gagner en vitesse phénoménale si facilement que ça, et ça prend du temps, mais c'est en mélangeant ces endurances mentales, ces séances d'endurance mentale et ces séances de vitesse, que l'on arrive à progresser à la fois sur notre capacité à courir plus longtemps, mais aussi à courir plus vite. Le deuxième conseil, un petit peu auquel je n'aurais pas pensé avant de commencer à courir, c'est quand tu en as le moins envie, que tu en as le plus besoin et que ça fait le plus de bien et que parfois c'est même la meilleure des séances. Alors ça, je l'ai découvert en courant, en fait, au départ, en courant. Au départ, je le dis, moi, courir me semblait plus un calvaire qu'autre chose, parce que c'était dur, difficile. Je le redis souvent, cette séance, ce souvenir de séance sur une plage où j'ai tout claqué, où j'ai dit j'en ai marre, j'arrête de courir, etc., j'en peux plus, etc. C'est ce qui m'avait freiné, c'est ce qui m'avait arrêté de courir dans ma première tentative de course, parce que avant d'arriver à devenir un coureur du quotidien ou presque, ce que j'appelle comme ça, j'étais passé par des caps où je n'arrivais tout simplement pas à courir. Et rappelez-vous, c'est le passage obligé. Dans les discussions du Hamster Running Club, tout le monde est passé par là. Et rappelez-vous l'épisode avec Cécile Bertin, par exemple, qui le raconte très bien, mais Johan Stuck aussi qui le raconte très bien, que au départ, on part comme ça, et puis on se rend compte que au bout de 200 mètres, au bout de 300 mètres, on est juste pas bien. Et puis, rappelez-vous aussi l'épisode avec Redouane, Redouane court, et son projet de courir le marathon, etc. Où là, vraiment, on sait qu'il y a un moment donné, c'est très difficile, et qu'on a l'impression que courir est quelque chose de naturel, mais qu'en fait, c'est pas naturel. Et ce que j'ai découvert en courant, c'est que passer ce premier cap, où finalement, c'est vraiment un calvaire, et qu'on commence à courir un petit peu, il y a des jours où on se dit, c'est difficile, j'ai pas envie, il y a le mauvais temps, j'ai le pas de temps. Par exemple, moi, il y a des jours où je me dis, ouais, j'ai pas le temps, je dois travailler là-dessus, etc. et autres. Il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue psychologique. On traîne des pieds pour y aller. C'est aussi, rappelez-vous, j'avais fait un épisode sur pourquoi je cours en club et pourquoi des fois ça motive, parce qu'aller courir en club, par exemple, il y a des séances des vendredis soirs à 18h30 où il neige presque, où il fait très froid, il pleut, des choses comme ça. S'il y avait pas le groupe, s'il y avait pas les autres personnes du groupe, s'il y avait pas le petit club d'entraînement, franchement, il y a des jours où on n'irait pas. Mais en fait, la découverte que j'ai fait, c'est que c'est ces séances-là qui sont souvent les plus bénéfiques. Parce que, au bout de 10 minutes, finalement, on se remercie d'y être allé. On se dit, waouh, finalement, j'ai bien fait d'y être allé. Ça dégage la tête. Et curieusement, j'ai découvert que moi, c'était même ces séances qui s'avéraient les plus bénéfiques. Et pas seulement sur le plan mental de dégager la tête, mais aussi sur le plan physique. Et je me suis rendu compte qu'il y a des séances sur lesquelles il y a des jours où j'avais pas envie d'y aller. Et qu'au bout d'un moment, au bout de 10, 15 premières minutes, ce moment diesel, de démarrer le diesel, on s'est dit, waouh, attends, maintenant, j'ai démarré et tout. Tiens, et si finalement, je poussais un peu plus loin la machine, je me sentais pas super en forme, mais finalement, s'il y a plus de répondants, et tiens, si tu essayais ça, si tu faisais ça, etc. Et je me suis découvert que finalement, ces séances, ces jours où on n'a pas trop envie d'y aller, où on a le moins envie vraiment d'y aller, c'est là où, en fait, ça nous fait du bien. C'est là où, en fait, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin, parce que c'est là où le mode de vie sportif entre en jeu. C'est que, en fait, ce sport, finalement, va venir remplacer des mauvaises habitudes qui auraient pu être de dire je me mets sur le canapé et puis je regarde Netflix ou YouTube ou je regarde la télé un petit peu sans trop savoir ce que je fais, et puis tiens, je vais me prendre un paquet de gâteaux, un paquet de chips, Ou alors je vais me boire l'apéro et puis on va abuser sur un truc ou quoi que ce soit. Ou alors, enfin, vous voyez, il y a des espèces de choses comme ça qui peuvent intervenir. Et moi, je me rappelle très bien hein, comment j'agissais comme ça. Si vous me placez sur mon canapé comme ça, à rien faire sur mon canapé, il y a au bout d'un moment, je vais aller taper, voir si dans les tiroirs, il n'y a pas un bout de chocolat. Si alors, je vais y aller une fois, je vais y aller deux fois, trois fois. Parce que, bah voilà, c'est au bout d'un moment, c'est les tentations, les choses comme ça reviennent. Et puis, finir par somnoler, par ne plus faire de mouvement, etc., par rester sur son canapé. Et donc, c'est aussi dans ces jours où on aurait bien envie de rester sur le canapé que j'ai découvert que finalement, c'est là où j'en ai le plus besoin, où vraiment, ça me fait le plus de bien. Et souvent, souvent, pour moi, ce sont même souvent les séances qui sont le plus intéressantes, qui m'apportent le plus de bénéfices, à la fois sur le plan mental, mais aussi sur le plan vraiment, tout simplement, du fonctionnement du corps, sur le bien-être après, et aussi sur le plan de la qualité de l'entraînement. La troisième chose que j'ai découverte, c'est que le repos est un très bon entraînement et que parfois, bah, le repos, alors c'est ce que je disais, hein, ça peut paraître contre-intuitif dans sa logique globale, mais ça peut paraître contre-intuitif par rapport au conseil d'avant, mais c'est que le repos est aussi un très bon entraînement et là, en 2 ans, j'ai découvert les bénéfices de l'entraînement invisible. Toutes les choses que vous faites à côté qui vous permettent de mieux vous entraîner, de mieux progresser, de mieux courir. Et dedans, on pourrait mettre le sommeil, d'aller marcher au lieu de courir, le yoga, les étirements, le stretching. En fait, ce sont plein de séances comme ça, plein de petites habitudes qui paraissent ne pas être de l'entraînement et qui pourtant sont capitales. C'est par exemple pendant le sommeil que le corps va réparer les fibres musculaires, les tendons, le système osseux, etc., qui va construire les adaptations nécessaires pour les rendre plus forts, parce que le principe même de la construction du corps, c'est que nos cellules, nos fibres musculaires, il ne sait pas les réparer, en fait, hein, il ne les répare pas, il les remplace par des choses qui sont plus fortes. Donc quand on court, on va créer, bah oui, on détruit de la fibre, on use les muscles, etc., on détruit des cellules, on détruit de la fibre, etc. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le corps, lui, il va reconstruire et il va dire, bah tiens, on m'a demandé un effort qui était important, je vais faire en sorte que la prochaine fois que l'effort important va avoir lieu, le corps, moi, en tant que corps, je puisse tout simplement le supporter et donc je vais reconstruire plus fort. Je vais reconstruire aussi plus souple, je vais reconstruire un petit peu différemment pour arriver à supporter ce que bah, finalement je me demande. Hein. Je vais en dire, je me demande, je me vois en sens global. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que ces adaptations-là, elles se font pas pendant qu'on court, en fait. Hein. L'adaptation, et on peut revenir sur les notions de stress mécanique, le principe global, c'est que pendant qu'on court, l'entraînement permet de dire, je vais faire telle ou telle chose qui sont difficiles, le corps, lui, va réagir en disant, bon, ben, il y a eu de la casse, hein, il y a eu de la casse, sur les courses, il y a de la casse, sur les entraînements, il y a de la casse, je vais les reconstruire de manière plus forte, plus souple, plus adaptée à l'effort qu'on m'a demandé. Et en fait, ça, c'est un point important. Mais il y a aussi un autre point important, c'est que c'est aussi le repos qui peut éviter la lassitude, parfois. C'est le repos qui va permettre aussi d'éviter la surfatigue. C'est ce qui va permettre de se projeter sur un nouvel objectif. Une discussion qu'il y a eu l'autre jour, par exemple, c'était sur est-ce qu'il faut faire une pause après le marathon ? Rappelez-vous que moi, après mon marathon, j'ai fait une pause, j'ai pas couru pendant presque, on va dire, 15 jours, 3 semaines où j'ai fait une séance par-ci, j'étais allé marcher, etc. Mais ce qui permettait aussi de dire, bah derrière, je suis capable de repartir sur d'autres choses. Alors bien entendu, il y a des limites, c'est-à-dire que ce que j'avais appris après le marathon, c'est que j'avais oublié de fixer un nouvel objectif après mon marathon, et qu'en ne fixant pas un nouvel objectif, finalement, j'étais tombé dans une zone qui était un petit peu la zone de non-entraînement, en disant, bah tiens, je vais courir, mais un peu pour le plaisir d'aller courir mécaniquement, etc. Mais j'étais content de retrouver le club et autres, mais quand on faisait des séances de VMF et tourner autour de la piste à fond, bah je me voyais pas trop pourquoi je vais le faire, parce que j'avais pas d'objectif kilométrique, j'ai pas d'objectif de course, j'ai pas d'objectif en disant je vais faire un trail, je vais faire un 5 km, un 10 km, j'avais pas d'objectif de progrès. J'avais un petit peu réussi mon truc en disant bah maintenant je suis marathonien, on va pouvoir attendre. Et en fait, vraiment, et c'est ce que j'ai appris, mais là je le c'est pas contre-intuitif, c'est-à-dire que ça me semble logique maintenant hein, de le voir comme ça, c'est que il faut placer le repos comme étant quelque chose qui permet hein, de progresser, mais qui permet aussi de se dire, bon maintenant je vais réfléchir à ce que je vais faire ensuite, je vais programmer la suite de mes séances, la suite de ma saison, ce que je vais faire ensuite, les autres courses, etc. Et c'est ce qui me permet, cette période d'alternance entre des efforts importants et des périodes de repos, ben d'aussi, tout simplement, de se projeter sur de nouvelles choses qui, à un moment donné, tout simplement, nous semblent pas possibles, parce que si on est fatigué physiquement et psychologiquement, on n'arrive pas à se projeter sur une nouvelle course. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le corps frais et l'esprit frais. Et ça, c'est le repos qui permet de le faire. Et le repos, ben finalement, c'est un très, très bon entraînement. Et moi, je leur dis, hein, le sommeil, dormir plus, mais aussi j'introduis de la sieste. Hein, moi, je peux, comme je travaille à la maison, et ben, je peux faire la sieste. Je me mets pratiquement de la sieste, un petit peu, une petite séance de sieste tous les jours, etc. Et ça fait énormément de bien. Vraiment, depuis que j'ai découvert la puissance du sommeil et du repos, je suis franchement mieux dans mon corps et aussi dans ma tête. Et ça, c'est un truc qui, à un moment donné, pour moi, ça me paraissait vraiment pas logique. La quatrième conseil un petit peu contre-intuitif que j'ai découvert, c'est que finalement c'est tout notre corps qui court. Pour moi, dans mon esprit, au début, quand j'ai peut-être dans votre esprit aussi, quand vous avez commencé à courir, on se dit c'est les jambes qui travaillent, hein. C'est mettre un pied devant l'autre, de recommencer. On va recommencer des milliers de fois quand on court un marathon, on va recommencer des milliers de fois encore plus quand on fait de l'ultra, etc. L'autre jour, j'avais vu le chiffre de combien de fois on pose le pied quand on court un marathon, mais ça chiffre en dizaines de milliers de fois sur une course de marathon. C'est si on fait un 5 km, si on fait un 10 km, c'est des milliers de fois aussi. Donc on se dit, bah voilà, l'essentiel, hein, c'est que les jambes, elles avancent, elles posent, mettre un pied devant l'autre et recommencer. Vous savez, c'est la fameuse comptine des scouts et je ne sais pas de toutes les colonies qu'on peut faire. Moi, j'ai pas été scout, mais j'étais en colonie. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Oui, ça, c'est la logique. Sauf que, bien entendu, il y a d'autres choses qui rentrent en tête. Alors, il y a bien sûr le côté, la tête, le mental. Comment est-ce qu'on est capable de se dire, oui, je pars, hein. Alors là, l'épisode avec Stéphane, par exemple, de comment on s'aligne sur un ultra de 112 km. J'ai d'autres invités. On va aller sur des distances qui sont encore plus importantes, et sur des choses qui sont encore plus importantes, que j'ai en tête, hein, qui ont accepté. Donc, ça va finir dans les épisodes qui vont venir ensuite. Donc là, il y a le côté tête, hein, bien sûr, qui avance. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous l'épisode de Cécile Bertin, hein, quand elle dit qu'est-ce qui se passe au moment donné où la tête qui fait avancer, qui fait pas avancer, qui d'un coup, il y a les euphories, des choses comme ça. Mais après, il y a aussi la tête. Émile, j'ai envie de dire, ça paraît logique. Mais il y a d'autres choses. Les bras, par exemple, les abdos, tout le haut du corps. Le fait que finalement, bah, le haut du corps, que la mécanique, c'est pas seulement nos jambes qui avanceraient tout seules et le reste du corps qui resterait comme ça. La course à pied, courir mieux, la démarche. Alors là, l'épisode avec Charwin Daltra, où il expliquait bien le mouvement des bras, où les éducatifs, hein, permettent aussi de travailler cet aspect-là. L'équilibre du corps au global, la position, si on est vers l'avant, vers l'arrière. Moi, j'ai découvert, par exemple, quand j'ai fait ma périostite, que je courais en talonnant, bien sûr, que ça m'amenait vers l'arrière, une position qui était un peu assise, ce qui expliquait, par exemple, que j'avais l'impression de lutter contre le sol et que j'étais vraiment en lutte, mais aussi que j'avais tout simplement des tensions qui étaient énormes, hein, sur le bas des jambes, mais que ça venait aussi tout simplement aussi que, par exemple, mon haut du corps, je me suis rendu compte que il était pas assez, je faisais pas assez de gainage, je faisais pas assez de musculation. Et un jour, j'avais fait des essais dans des salles de sport. Et le coach m'avait montré quelqu'un, il m'a dit, bah tiens, lui, par exemple, il a gagné beaucoup de temps en marathon en faisant un programme de musculation. Et c'est une remarque que m'avait fait aussi, on en avait parlé il y a pas très longtemps, dans un épisode, je me rappelle plus lequel épisode, on avait dit, je crois que Hans Tuck en avait parlé de l'importance, il disait, mais il vaut mieux faire 5 minutes de gainage et de pompe à la fin de sa sortie, plutôt que d'allonger le kilométrage, c'est bien aussi de faire ces exercices-là. Moi, alors ça fait un an à peu près maintenant, enfin 11 mois que je suis en un défi un petit peu à la con, j'ai envie de dire, qui m'a été lancé par l'ami Nico Réagi, donc vous pouvez écouter le podcast, je vous mettrai un lien quelque part, et qui est un fervent soutien, mais et je remercie parce qu'il y a des jours, il m'a envoyé des messages qui ont foutu des coups de pied au cul en me disant, bah maintenant, il est peut-être temps d'avancer un peu plus vite sur tes projets. Et là, merci Nico pour ce genre de messages et pour tous tes encouragements et puis pour tout ce que tu fais pour le Hamsters Running Club. Et donc, ce projet à la con, il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais pour fêter mes 43 ans, mon 43 ans. Il m'a dit, t'as qu'à faire 43 000 pompes dans l'année. Bon, j'avais regardé un petit peu les choses, fallait faire 117 pompes par jour, etc. Bon, j'y serais pas, hein, aux 43 000. Bon, en tout cas, j'en fais toujours, hein, donc j'étais monté à une centaine de pompes par jour. Je suis redescendu, là, j'en fais un peu moins, je suis à une cinquantaine, mais parce que je fais des squats, je fais du gainage, je fais des fentes, des choses comme ça. je travaille aussi les bras. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement que de faire tout ça, ça développe le haut du corps, qui pour moi, c'est un aspect esthétique, soyons honnêtes, mais aussi sur le plan de la tenue du corps. Ce que m'a dit par exemple l'ostéo, quand j'avais vu l'ostéo, alors ça fait 2 étés que je vais voir le même ostéo quand on part en vacances, et qui m'avait dit, bah, par exemple, par rapport au fait d'être penché, hein, la situation de syphose, qui était un peu marqué, d'être un peu penché vers l'avant, m'a dit, bah, il y a des exercices de renforcement, de gainage, d'ouvrir un petit peu la cage thoracique, ça va aider aussi à la respiration, et c'est là aussi un autre aspect, c'est que notre corps, bah, bien sûr, les jambes courent, mais pour que les jambes courent, il faut que le cœur ben, fonctionne bien, il faut qu'il puisse balancer du sang, etc. Mais il faut aussi qu'on soit bon en oxygène. Et par exemple, l'an dernier, c'était vraiment ce que m'avait dit l'ostéo. Il m'avait dit que mon diaphragme fonctionnait mal, que en fait, il descendait pas assez, donc finalement, je prenais pas assez d'oxygène. Et en fait, c'était un problème qui était dans la course à pied, mais qui était aussi dans ma vie, dans mon quotidien. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai introduit la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, tout simplement parce que, eh ben, finalement, je prenais pas assez d'oxygène. Et un jour, avec un naturopathe, il m'a fait un test. Et le test qui s'appelle de Bouteco, vous pourrez chercher si ça vous intéresse. Je verrai si je peux mettre un lien quelque part. Et il m'a dit, bah, le test me montrait que finalement, j'avais beau courir, j'avais beau faire un marathon, j'avais une condition physique qui était pas très bonne. Et c'était très paradoxal, cette histoire-là. Tout simplement parce que je n'avais pas de capacité, ma capacité respiratoire, elle était pas à son maximum, parce que mon utilisation, c'est pas l'utilisation de l'oxygène, mais l'utilisation du CO2, notamment, que Bouteco a testé, c'est comment notre corps est capable de gérer le CO2, l'apport de CO2 dans notre corps, etc. Alors là, ça, on rentre dans des considérations qui mériteraient un épisode à eux tout seuls, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Mais en tout cas, m'avait montré que le fait que je respire pas bien, le fait que mon diaphragme fonctionne pas assez bien, le fait que si je faisais des exercices, etc., ça m'aidait aussi à mieux courir. Et puis, l'autre chose que j'ai découvert, c'est que c'est aussi notre système digestif qui court. Et ce que j'ai découvert en courant, et en courant plus, c'est que notamment, mon grand point de faiblesse, et qui est un grand point de faiblesse de beaucoup de coureurs, et ben c'est tout le système, notamment les intestins. Le nombre de fois où ça tortille dans le ventre, on se sent pas bien, etc., ce qui peut venir de ce qu'on mange, ce qui peut venir de ce qu'on a mangé les jours d'avant, ce qui peut venir aussi de son alimentation globale, de son passé, de tout un tas de choses, etc. Alors c'est là où, par exemple, les études de naturopathie de ma femme sont extrêmement éclairantes dans cette histoire-là, parce que quand elle revient, elle me parle de ça, de telle ou telle chose, elle fait des recherches dans tel ou tel domaine, et on se rend compte que tel aliment serait à privilégier, tel aliment pas à privilégier, etc. Et quand on en discute, quand on regarde un petit peu avec les coureurs, on se rend compte que souvent, et c'était une cause, que l'une des plus grandes causes d'abandon, par exemple dans les ultras, c'est pas une cause d'ampoule physique, ça en fait partie, c'est pas des grosses blessures, mais c'est aussi juste justement des ventres qui sont en état catastrophique, l'incapacité de manger, les envies de vomir, l'impression que le corps va se vider dans tous les côtés, et que ça fait partie en fait vraiment que l'entraînement, la capacité à manger, et j'avais lu un livre, alors je crois que c'est le livre sur de mon canapé à la course à perdu du monde de Yvan, alors j'ai perdu son nom, mais je vous remettrai le lien, je crois qu'il parle de ça, sur la capacité par exemple à courir, et je l'ai vu il y a pas très longtemps aussi, sur l'entraînement de l'ultra, courir quand on mangeait, quand on court, courir, être capable de courir avec le ventre un peu plus plein, un peu plus rempli, ça fait partie aussi de l'entraînement, par exemple, de choses comme ça. Et je l'ai lu aussi, oui, dans un livre aussi, où c'était expliqué, par exemple, qu'il s'était entraîné, la personne s'était entraînée à courir le ventre plein en disant, bah, si on fait un ultra et qu'il y a une pause avec des pâtes ou je sais pas quoi, ou de la soupe, ben derrière, il faut être capable de recourir derrière, et c'est pas si simple que ça. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, montrent que la course à pied, le sport dans son ensemble, c'est pas seulement le fonctionnement, et dans notre cas des jambes qui doivent avancer, c'est tout notre corps qui permet aux jambes, hein, tout simplement d'avancer, que le fait de faire du gainage de la musculation aide le corps, aide la position, va alléger aussi, par exemple, la pression qui va se mettre sur les jambes, s'entraîner à courir avec le ventre un peu plus plein, ça marche. Le livre dont je vous parlais, là, sur le marathon des sables. Il explique aussi que certains concurrents s'entraînent, par exemple, à se retenir de faire pipi parce que sinon ils seraient obligés d'aller faire pipi trop souvent parce qu'ils sont, ils sont obligés de boire beaucoup parce que il fait très chaud dans le désert. Enfin, il y a toute une gestion, il y a tout un tas de choses en fait qui montrent que ben, les jambes c'est une chose, mais que tout l'ensemble du corps participe. Et bien entendu, il y a le côté mental, psychologique, etc. Et notamment, on va parler avec j'ai invité une personne, notamment sur les apports, par exemple, de la méditation. Une question qu'il y a eu dans le Hamster's Running Club, qui a été posée il y a quelques heures même, là-dessus, c'était de dire, et moi c'était le truc qui me semblait insurmontable d'ailleurs, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on part courir 4 heures un marathon, mais on pourrait poser un ultra, et c'est ce que je vais faire, des ultra-marathoniens, des coureurs d'ultra, des grandes distances, qu'est-ce qui se passe quand on va courir, quand on part pour courir pour 3 jours, 4 jours, quand on se lance dans des courses qui durent même des fois beaucoup plus longtemps que ça, parce que certains se lancent dans des défis de 800, 900 kilomètres, et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, et qu'est-ce qui se passe dans la tête. Et donc ça fait partie, la découverte hein, de ce fonctionnement global du corps vient aussi en grande partie finalement de ce que je demande à mon corps quand je veux aller courir. Et mon plus grand apport hein, vraiment de cette année, de la dernière année qui vient de s'écouler, puisque j'ai fêté mes 1 an de yoga, ça fait 1 an que je fais du yoga tous les jours. Avant d'enregistrer cet épisode ce matin, j'ai fait ma séance de yoga qui n'est pas forcément très longue, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de yoga, mais par exemple je fais 10 minutes de yoga tous les matins, à peu près 10-15 minutes, mes petits étirements, du yoga, la proprioception, des choses comme ça, c'est que ça m'aide énormément à être plus souple, hein, ce que je recherchais. Ça m'aide beaucoup parce que j'étais très raide, et en fait, il y a une partie aussi, la souplesse, c'est important aussi pour être mieux dans son corps, pour faire plus de mouvements, pour même pour porter des choses du quotidien, j'ai envie de dire, pour mieux supporter sa chaise de bureau, pour mieux supporter le fait d'être debout tout le temps, si vous êtes dans des métiers où vous êtes debout, l'alternance entre se lever, s'asseoir, etc. J'ai moins de douleurs au dos, j'ai moins de douleurs aux jambes. Il y a une époque où je revenais avec des séances où j'avais mal aux jambes, j'ai monté à peine les escaliers, etc. Où j'avais de la fatigue qui durait plus longtemps, et maintenant c'est beaucoup moins le cas, et je me rends compte aussi que j'ai beaucoup gagné en souplesse, là où mes jambes étaient très raides, elles le sont beaucoup moins, que mon dos qui était très raide, qui faisait que je dormais pas très bien des fois, elle est beaucoup moins, qu'il y a des mouvements que j'étais incapable de faire, que je suis capable de faire. Et si par exemple vous êtes triathlète, si vous voulez aller sur de la natation, si vous voulez faire du swimrun, un des conseils que j'ai découvert l'autre jour quand je cherchais des aides sur comment mieux nager le crawl, etc., c'était que la souplesse du haut du corps, à un moment donné, pour arriver à nager le crawl, il faut avoir une certaine souplesse, il faut arriver à faire certains mouvements, etc. C'est vrai que ça se travaille, c'est des choses qui se travaillent. Quand vous regardez les entraînements des nageurs, ils travaillent aussi la souplesse, ils travaillent tout un tas de choses, et ça fait partie aussi, moi je me suis rendu compte que cet apport du yoga vraiment été extrêmement bénéfique pour moi, parce que vraiment c'est je le pensais pas hein. Au début je me suis dit, ouais c'est pas pour moi, je suis trop raide, etc. Et en fait j'ai vraiment, ça fait partie aussi des grandes découvertes, c'est que cette souplesse hein, et qui va lier hein, avec finalement le fonctionnement global du corps, m'aide tout simplement à être mieux au quotidien, mais être aussi mieux quand je vais courir, quand je prépare des petites courses, des objectifs, ou tout simplement quand je vais courir pour me détendre, j'ai envie de dire, vous savez, les petites sorties endurance mentale, les trucs du dimanche comme ça, juste pour prendre l'air, etc. Et ben que cet ensemble global, hein, tout vraiment cet ensemble global, c'est vraiment tout le corps qui fonctionne, que le yoga en fait partie pour moi, que avoir fait plus d'abdos, qu'avoir fait plus de pompes, etc. m'a beaucoup aidé, mieux manger m'aide beaucoup, et que c'est pas juste les jambes qui avancent, hein, que c'est l'ensemble du corps, et de corps à la tête, hein, du pied à la tête, qui fonctionne ensemble et qui nous aide à mieux courir. Enfin, mon cinquième conseil auquel, franchement, alors celui-ci, c'est un petit peu ma philosophie que j'ai apprise grâce à la leçon de mon premier marathon, mon échec sur mon premier marathon, justement il y a 2 ans, hein, fameux marathon qui devait être celui de mes 42 ans, et c'était le marathon de Lyon en octobre 2018, c'est que la victoire peut être d'être au départ et pas seulement d'être à l'arrivée. Et ça, moi, c'est un truc que sur l'instant, je n'imaginais pas, c'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la préparation des premières courses, Je ne voyais qu'une chose, c'était est-ce que je vais arriver au bout. Quand je me suis inscrit à mon premier trail, ma question de départ était est-ce que je vais vraiment arriver au bout de ce premier trail? Et ce premier trail faisait 13 km. Donc ma question était est-ce que je vais vraiment arriver au bout? Et sur le marathon de Lyon, quand j'ai préparé le marathon de Lyon, j'étais focalisé sur qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver au bout, comment ça va faire, etc. Et en fait, j'ai découvert, notamment par ce marathon, mais j'ai découvert ensuite par plein de choses, que la première grande victoire, parfois, c'est d'être au départ de la course que l'on vise. Parce que ben moi, ça avait été un échec cuisant qui m'avait vraiment rappelé que on peut pas tout faire, on doit le faire à notre manière. On connaît tous des moments de fatigue, des petites blessures, des petits pépins physiques. Ils sont souvent à l'entraînement, mais en fait, ils peuvent être dans la vie de tous les jours. Ils peuvent être, on peut se blesser en allant, en faisant son jardin. On peut se faire mal en jouant avec ses enfants. On peut faire, voilà, il y a plein de situations qui peuvent amener ça. Et que par moment, hein, le simple fait de pouvoir s'aligner sur une course est une victoire en soi. Alors, en plus cette année c'est encore un peu particulier parce qu'il y a l'année avec le virus, c'est encore un peu spécial. Mais si on enlève ce côté virus, le simple fait de déjà de se dire je suis capable de m'aligner à une course est déjà une victoire en soi. Le simple fait de se dire je suis capable de m'aligner, de m'inscrire à un marathon, de m'être préparé pour courir un marathon est une victoire en soi. Mais c'est valable pour un 5 km, c'est valable pour un 10 km. Si vous n'avez jamais fait de course, votre premier 5 km peut vous sembler insurmontable. Il est insurmontable sur au départ. Vous dites, mais est-ce que je vais pouvoir courir 5 km? Est-ce que je vais pouvoir faire un 10 km? Est-ce que je vais pouvoir faire 10 km en une heure, par exemple? Ça peut être un objectif que l'on se donne. Ça vous semble impossible, insurmontable. Et en fait, on se focalise beaucoup sur la capacité. Est-ce que je vais y arriver? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le problème, c'est d'arriver, d'être sur la ligne de départ. Et j'avais dit sur mon marathon de Paris que ma première victoire, ça serait sur la ligne de départ. Et ce que j'ai découvert ce jour-là, c'est que sur le marathon de Paris, et je repense à ça parce que je le sens en fait, vous voyez, quand je le dis, j'ai des petits frissons qui passent. Je me rappelle du sentiment qui m'a animé au moment où on a pris le départ. Et je revois, et je l'ai raconté déjà dans un épisode, quelqu'un à côté de moi, un autre coureur, qui s'est mis à pleurer au moment du départ et pas de l'arrivée. Moi, j'avais des larmes qui commençaient à pointer au départ, qui étaient franchement là à l'arrivée. Mais l'émotion, le simple fait de dire « je suis là, j'ai tout fait, j'ai fait tous les efforts pour être à ce point de départ ». Pour être sur cette ligne de départ, pour être prêt sur cette ligne de départ, pour être confiant sur le fait que je vais pouvoir le faire, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Et quand j'ai commencé à fréquenter des pelotons de course, etc., j'entendais des anciens, alors des anciens, quand je parle, il peut y avoir des anciens par l'âge, mais des personnes un peu expérimentées dans la course, certains disaient, il me dit, oui, mais la course, c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait. Il me dit, on a fait tous les efforts qu'on a fait, voilà, on a la récompense maintenant des efforts qu'on a fait, et la récompense, c'est pas la médaille, c'est pas d'arriver au bout, c'est le fait de pouvoir faire la course. Et ce truc-là, au départ, je le comprenais pas vraiment, et je l'ai compris le jour du marathon de Paris, en fait. Dire de pouvoir courir ce marathon de Paris. Alors bien sûr, il y a un moment, c'était dur, prendre le mur, etc. Mais le simple fait de dire, je suis là, je suis capable de le faire, alors qu'il y a 2 ans, j'en étais incapable, alors qu'il y a 3 ans, j'étais même pas capable de courir, ça, c'était une victoire. Et en fait, on peut voir que la course, un peu comme la cerise sur le gâteau, arriver à se présenter au départ, en forme, bien préparé, ça peut être notre plus belle victoire, hein, parce que, ce que je dis, moi, je suis un coureur qui ne gagnera jamais une course, hein, même si Cécile Bertin nous a prouvé qu'un jour, elle a pu gagner un marathon, alors qu'elle pensait que c'était impossible à faire. On peut dire, et là, ça me fait penser à une discussion dans le Hamsters Running Club, on peut dire, bah oui, des fois, il y a des trucs qui peuvent arriver, hein, un peu façon Jean-Claude Duss, vous voyez, on sait pas, hein, tout peut arriver, mais en fait, en tout cas, le fait de pouvoir être à la ligne de départ, c'est une victoire en soi, déjà, et il faut le prendre comme ça, et moi je le prends comme ça, le fait de pouvoir m'aligner, de me dire, dimanche on a un swimrun, etc., et je sais que je suis capable de le faire, et je suis capable de m'aligner, j'ai envie de dire le courage, parce que c'était le courage de dire j'ai le courage de m'inscrire à la course qui me semble insurmontable à faire. Quand j'avais dit par exemple sur le marathon m'inscrire en marathon, ça me semblait impossible de le faire. Rappelez et Red One, hein, l'épisode avec Red One de Cours Red One Cours, qui le truc qui semble impossible à faire pour lui avec de son point de départ à lui. Je vous renvoie sur cet épisode-là. Le simple fait de dire je suis sur la ligne de départ, j'ai fait tous les préparatifs, j'arrive en forme, je suis pas blessé, je suis capable de courir, etc. C'est pour moi aussi une grande victoire. Et ça, c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé avant. Et c'est là que j'ai compris ce que je dis vraiment dans les anciens. Et je pense à des discussions que j'avais eues au club, etc. Ils nous disaient, ah, la préparation marathon, dans le marathon, ce que je préfère, c'est la préparation. Ça me semblait un truc qui me semblait vraiment improbable dans cette histoire-là. Mais on pourrait le dire par rapport au semi-marathon, on pourrait le dire par rapport au trail, etc. Mais en fait, je l'ai compris au fur et à mesure des préparations. J'ai compris au fur et à mesure des entraînements, mes séances au mois de juillet où j'ai couru tous les jours, etc., que le fait de pouvoir s'entraîner, le fait de pouvoir le faire, c'est de pouvoir se dire je suis capable de participer à ces courses, de m'aligner sur une départ, d'accrocher le dossard, le simple fait de dire je suis capable de le faire est aussi en soi une victoire. Et bien sûr, ça n'enlève pas le fait d'arriver au bout, ça n'enlève pas d'arriver au bout en disant tiens j'ai fait mon temps, etc. Mais il peut se passer plein de choses dans une course. On peut par exemple avoir une course dont le temps ne nous plaît pas, hein, on peut ne pas être satisfait du temps, on peut dire ah ben je suis pas satisfait de mon temps, etc. Et que pourtant c'était une belle course parce que le simple fait de l'avoir fait déjà, c'était quelque chose qui nous semblait pas possible. L'an dernier j'ai un souvenir d'une course qui m'avait paru difficile, qui était compliquée, qui était dans cette zone-là, là du début septembre, vous voyez, dans ces zones-là, et qui à l'arrivée j'étais arrivé déçu, et puis finalement, quand j'ai regardé le truc, je me dis, ouais, mais t'as pas été déçu, parce que finalement, tu l'as fait avec, c'était ma première course avec des Five Fingers, première ou deuxième course avec les Five Fingers, j'avais été déçu par certains aspects de ma course, des choses comme ça, je me dis, ouah là là, ça j'en ferai pas, etc. Et pourtant, quand je le regarde, le simple fait d'avoir me dire, bah tiens, là aujourd'hui, t'es capable d'aller faire une course, de faire ça, d'aller courir à tel endroit, d'envisager de pouvoir le faire à telle ou telle vitesse, c'était déjà pour moi, en fait, une victoire. Et en fait, je le prends vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand on est dans ses préparations, et quand on est dans ses préparations, quand on est un hamster, hein, vraiment, vous voyez l'image du hamster, je me rappelle, moi le hamster que j'étais de 105 kilos, le simple fait de me dire, samedi, dimanche, tu t'alignes à une course, tu vas accrocher un dossard, tu t'es préparé pour ça, tu es capable de courir, tu étais capable de courir une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois, quatre fois par semaine, tu étais capable de faire telle ou telle chose, déjà en soi, pour moi, c'est une victoire, et je le redis, hein, c'est un truc qui me semblait contre-intuitif au départ, mais la victoire peut être d'être déjà au départ, et c'est pas seulement l'arrivée, de regarder l'arrivée en se disant « je l'ai fait », mais c'est aussi de dire « j'ai fait la préparation et j'arrive ici sans embûche, en forme, je suis capable de le faire », et pour moi, c'était quelque chose qui me semblait pas vraiment logique au départ. Donc je vous rappelle un petit peu hein, ce que j'ai dit dans cet épisode, pour refaire un bilan, parce que finalement je me suis un petit peu étalé. 1. Courir lentement pour courir plus vite, l'endurance mentale. 2. C'est quand on en a le moins envie, quand on en a le plus besoin et que parfois ça fait le plus de bien et que ce sont même souvent les meilleures séances. Le repos est un très bon entraînement. On ne court pas seulement avec nos jambes, mais avec notre corps entier, et ça va des pieds jusqu'à la tête, en passant par tous les organes internes que nous avons dans notre corps. Et le 5e, c'est que ben oui, la victoire peut être au départ. Peut être d'être au départ et pas seulement de regarder la victoire comme de finir la course, mais de regarder aussi le fait d'être capable d'être au départ et d'être capable au départ sans se blesser, sans encombre, etc. C'est pour moi aussi fait partie des victoires et ça me semblait totalement contre-intuitif. Vous en avez probablement d'autres, hein, vous en avez probablement d'autres, et c'est ça qui m'intéresserait, c'est que vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez me dire, bah tiens, moi j'ai découvert telle ou telle chose, moi il y avait des choses, quand je me suis mis à courir, je pensais pas que ça marchait comme ça, etc., j'ai découvert ça, donc n'hésitez pas à venir m'en parler, à m'ajouter des choses dans la liste, vous pouvez venir par exemple dans le Hamsters Running Club, hein, c'est la communauté que nous sommes en train de monter. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Je suis pas encore certain que si vous cherchez sur Google Hamsters Running Club, vous tombiez dessus, mais en fait, il y a son propre nom de domaine, hein, c'est vous faites membre.hamstersrunning.club et vous allez tomber dessus, il y a une page d'accueil, vous pouvez vous inscrire. Dedans, on discute. On est à l'abri des discussions, des groupes Facebook où il y a des fois des mauvaises ambiances. On est à l'abri des réseaux sociaux qui viennent choper nos données pour en faire on ne sait quoi. Il n'y a pas de pub à l'intérieur, il n'y a pas de récupération de données personnelles, de surveillance, de tout un tas de choses, de traçage, etc. Il n'y a que des discussions, que des gens passionnés qui ont envie vraiment de venir discuter. Et on aborde tout un tas de sujets, on s'encourage. Il y a eu des sujets sur comment on s'entraîne, sur les montres, sur plein de choses comme ça. Aussi beaucoup de questions sur finalement, et c'est ça qui est pour moi qui est extrêmement important, c'est que la puissance de la communauté, c'est de dire on est tous ensemble, on s'encourage tous ensemble, mais on est chacun aussi avec notre parcours, nous sommes tous différents, nous courons tous à notre manière, avec nos objectifs, notre histoire. Il y en a certains qui débutent, il y en a certains qui ont fait des grandes courses, il y en a certains qui ont fait de l'ultra, il y en a certains qui visent de l'ultra, il y en a certains qui courent une fois par semaine, il y en a certains qui font du vélo, il y en a certains qui nagent, il y en a qui font un peu de tout, mais qu'en fait, on a chacun notre pratique individuelle, qui a une grande individualisation, qui est importante là-dedans, mais que la force du collectif, la force de la discussion, c'est que chacun, avec son expérience, peut amener un petit bout d'éléments qui va permettre aux uns et aux autres de progresser, et que c'est la discussion, ce sont les échanges, les partages autour de tout ça, qui nous permettent de progresser tous ensemble, et de, c'est aussi hein, l'esprit de ce podcast, c'est de vous partager, moi, des conseils que je peux avoir glané dans ma pratique, les recherches que je peux faire, les livres que je peux lire, mais aussi d'aller, et vous allez voir dans les semaines qui viennent, avec des invités, d'aller glaner auprès des invités des conseils que eux aussi ont appris au fur et à mesure, avec leur passé, leur parcours, avec ce qu'ils ont fait comme entraînement, ce qu'ils ont fait comme course, ce qu'ils ont appris, parfois dans leurs études pour certains, parfois dans leur métier qu'ils font actuellement, parfois dans les courses qu'ils ont pu faire, dans les essais qu'ils ont pu faire. On a chacun notre manière de courir, on a chacun notre manière de voir les choses, mais en s'entraidant comme ça, à la fois par le podcast, à la fois par la communauté, et ben on arrive tous à progresser. Et voilà, donc c'est pour ça, si vous avez des conseils complémentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez venir aussi dans l'Amsterdam Nick Japon, vous inscrire, partager tout ça, et en tout cas, on vous accueille les bras ouverts pour discuter de tout ça et partager. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.